l'euro s'apprécie de 1,03% à 1,2257 $. Sur le marché de l'or, l'once de métal fin se négocie à Londres contre 405,45 $. Quant au CAC, eh bien, il progresse toujours de 0,42% à 3719 points. La Bourse de Paris, Vincent Bezeau pour France Inter.
Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros la minute. 3230, France Inter au bout du fil.
On termine avec l'arrivée provisoire pour l'instant du Quintet Plus à Maison Lafitte. 18, 6, 13, 7 et 3, le 10 et le 16 étaient non partants. Vous écoutez France Inter, il est 14h et presque 4 minutes, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire et c'est bien sûr avec Patrice Gélinas, bonjour.
Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui une femme du XVIIe siècle, celle qu'on appelait l'âme de la Fronde, la duchesse de Longueville. Les événements ne nous font pas ce que nous sommes, ils nous révèlent qui nous sommes. Anne-Geneviève de Longueville. D'histoire. Elle aurait pu se contenter d'être belle, d'être une princesse de sang, d'avoir épousé un des hommes les plus riches de France, de collectionner les amants et de traîner son ennui entre son hôtel parisien et ses innombrables domaines de Normandie, de Beauce ou du Poitou. Mais Anne-Geneviève de Bourbon-Condé, duchesse de Longueville, était trop entière, trop ambitieuse et trop passionnée pour se contenter d'un rôle de figurante dans une histoire qui se ferait sans elle. Et l'histoire, en 1648, c'était le commencement d'une révolte dont elle allait prendre la tête, la Fronde. Louis XIV n'avait que 10 ans, et en attendant sa majorité, sa mère Anne d'Autriche assurait la régence dans un pays épuisé par la guerre et par les impôts du cardinal Mazarin. L'autorité royale était plus fragile que jamais lorsqu'en 1648, le Parlement de Paris, soutenu par une partie de la noblesse, se dressait contre Mazarin et Anne d'Autriche. Le 26 août, en faisant arrêter un membre du Parlement, la régente déclenchait la plus grande révolte qu'ait connue l'Ancien Régime, 150 ans avant la Révolution française.
Imposer au roi une charte, une constitution, c'est d'une république dans la monarchie, c'est tout le Parlement qui est criminel. Supprimer le Parlement, voilà ce qu'il faudrait. Et ce Broussel, savez-vous ce qu'il dit ? Que le meilleur moyen de servir le roi est parfois de lui désobéir. Oh, lui et ses deux autres enragés, je les pendrai. Est-ce une preuve en avion ? On arrête Monsieur Broussel ! Ils ont arrêté Monsieur Broussel et deux autres !
Aux armes, les gars !
Au Parlement !
Allez, au Parlement !
Au Parlement !
Ce fut une étrange rumeur lorsque Paris, tout en fureur, se mut et se barricada. Alléluia! Sur les 2 heures après dîner, dedans la rue Saint-Honoré, toutes les vitres l'on cassa. Alléluia!
Arlette Le Bigre, bonjour.
Bonjour.
C'était le début de 4 ans de Fronde, à la tête de laquelle on allait trouver une femme tout à fait étonnante, la duchesse de Longueville, dont vous venez d'écrire la biographie chez Perrin. Alors son nom, aujourd'hui, il faut bien le dire, ne dit plus grand-chose à tout le monde, enfin à beaucoup de gens, alors que, vous le dites dans votre livre, c'est vraiment peut-être dans l'histoire de France une des premières femmes à s'être impliquée directement dans la politique et sans être le faire-valoir d'un mari, ou c'est par elle-même qu'elle a fait de la politique.
Oui, absolument. Bon, jusqu'à elle, bien sûr, des favorites avaient pu agir sur le roi de France, des grandes dames sur leur mari ou leur frère, mais aucune d'entre elles n'avait pris directement la tête d'un mouvement politique. Et c'est pourtant ce qu'elle fait.
Ce mouvement politique, c'est quand même une révolte contre non pas la monarchie, hein, mais c'est contre Mazarin, contre Anne d'Autriche. Oui. C'est quand même extraordinaire parce que elle-même appartient à une très très grande famille française. C'est une Bourbon-Condé. Faut rappeler quand même ce que ça représente à l'époque dans la France du XVIIe.
Oui, effectivement, par son père, elle est donc Bourbon-Condé puisque son père descendait en droite ligne du sixième fils de Saint-Louis, excusez du peu, et sa mère était une Montmorency. C'est-à-dire qu'elle-même, une des plus vieilles familles de France, les Montmorency, se disait premier baron de France. Elle avait comme arrière-grand-père le fameux connétable de Montmorency. Donc, des deux côtés, nous sommes tout à fait au sommet de la hiérarchie nobiliaire.
Elle est la sœur d'un grand capitaine, d'un grand Condé.
Effectivement,
hein,
son frère, l'aîné de ses deux frères, qui n'a que 2 ans de moins qu'elle, sera le grand Condé.
Alors son destin est étonnant du début à la fin. Je dis bien du début parce que vous nous rappelez, Arlette Lebigre, qu'elle est née en prison au château de Vincennes. C'est étonnant.
Elle est née en prison parce que son père, donc le prince de Condé, qui était le premier prince du sang, c'est-à-dire que lui venait directement en ligne de succession au trône.
Au cas où Louis XIII n'aurait pas eu d'enfant.
Exactement. Son père était à la fois un mauvais mari, un mauvais père et un mauvais sujet. Et un mauvais sujet aux deux sens du mot sujet. Et là, il en avait fait un petit peu trop. Et un beau jour, Louis XIII l'avait fait enfermer à Vincennes, où sa femme, Charlotte de Montmorency, le dernier amour d'Henri IV, qui s'était pris de cette nymphette et qui l'avait marié à Condé, en qui il espérait trouver un mari complaisant. Et Charlotte avait donc rejoint son mari à Vincennes, et c'est comme cela que la duchesse naît en prison.
Alors la duchesse, on n'a pas le temps de s'attarder sur une enfance qui est peu banale, mais on va tout de suite à son mariage, elle a 23 ans, et elle épouse, alors là, le duc de Longueville, ce qui va lui donner son nom, qui est un des hommes les plus importants, les plus riches de France, lui-même c'est un descendant d'un compagnon de Jeanne d'Arc, Dunois, gouverneur de Normandie, et elle devient ainsi Madame de Longueville. Cela dit, ce mariage n'est pas un mariage heureux, c'est un mariage... comment dirais-je, d'intérêt, un mariage politique, comme on faisait souvent, pas un mariage d'amour à l'établissement.
Ah mais absolument, d'ailleurs, à cette époque et dans ce milieu, le mariage d'amour n'existe pas. Alors, l'amour peut venir par la suite, exceptionnellement, c'est assez rare, je crois. Et, mais, de toute façon, on ne se marie pas par amour. Monsieur de Longueville a 22 ans plus qu'elle, et il n'a rien de séduisant. À aucun point de vue. Bon, c'est quelqu'un d'extrêmement estimable. C'est un parfait honnête homme, comme on dit à l'époque. Il le montrera d'ailleurs tout au long de sa vie. Mais enfin, politiquement, j'ose dire, c'est un peu un raté. Chaque fois qu'il entreprend une action dans le domaine politique, elle échoue. Et un de ses contemporains disait, Longueville, c'est un pas en avant et 2 pas en arrière.
Alors sa femme, la duchesse, est une femme très belle. Elle a énormément d'amants, faut bien le dire. Enfin, elle a eu successivement des amants. Oui, on a même parlé de son propre frère, Conti, dont on disait...
Ah oui, mais alors vous savez, à l'époque, on racontait quoi dès qu'on voulait attaquer quelqu'un.
En tout cas, elle se retrouve à la tête d'une espèce de complot contre Mazarin, qui est le premier ministre d'Anne d'Autriche, elle-même régente du royaume, puisque Louis XIV est trop jeune. Et alors, où on trouve des gens, beaucoup de gens, on se perd un peu dans ces noms, Arlette Lebigre, vous n'y êtes pour rien, mais je voudrais qu'on parle des principaux acteurs, indépendamment de la duchesse de Longueville, de cette fronde. Il y avait d'abord son amant, Marcillac, le futur duc de La Rochefoucauld, je crois.
Oui,
il y avait aussi Gondi.
Alors, Gondi, qui sera beaucoup plus connu sous son nom à venir de cardinal de Retz, car il a laissé effectivement des mémoires qui sont parmi un des chefs-d'œuvre de la langue française, et c'est justement Gondi, qui n'est encore à ce moment-là que le coadjuteur, c'est-à-dire l'assistant numéro 1 avec droit de succession de l'archevêque de Paris, qui est son oncle. Gondi, qui est un trublion, qui adore mettre la pagaille partout, qui n'a pas d'ambition de pouvoir pour lui-même, mais qui s'amuse. Et qui est un véritable génie de l'intrigue.
Ce sera lui aussi un des acteurs de la fronde.
Ah, bien sûr.
Il y aura Conti, le frère de un des deux frères de la duchesse de Chevreuse.
Oui, le petit frère. Qu'elle entraîne d'ailleurs.
Voilà. Beaufort aussi.
Beaufort qui est un petit-fils de la main gauche d'Henri IV et qu'on a surnommé le roi des Halles, qui a un impact populaire absolument extraordinaire parce qu'il est très beau garçon, qu'il a la parole facile, etc. Et puis, il y a Madame de Chevreuse.
Ah, celle-là. Alors, elle complotait déjà sous Louis XIII.
Elle n'a fait que ça toute sa vie. Ouais. Et au moment de la fronde, elle n'est plus toute jeune, mais elle complote exactement comme quand elle avait 20 ans.
Et tout ce beau monde, justement, on va le retrouver chez la duchesse de Longueville, qui reçoit avec, justement, Madame de Chevreuse, qui reçoit leur ennemi commun à tous, le cardinal Mazarin, qui doit venir assister à une pièce de Corneille.
Madame la duchesse de Longueville.
Oui.
Les comédiens seront bientôt prêts, madame. À vos ordres.
Je vous précise. Croyez-vous qu'il viendra?
Oui, à cause de Corneille. Ah, c'est merveilleux, je crois que tous ses pires amis sont là. Vous, moi, votre frère Conti, le coadjuteur de Gondi, Madame de Montbazon, Beaufort.
Monsieur Renard,
je vous laisse mener la chasse seule.
Au lieu que vous attendez, monsieur le cardinal.
Tous ces gens dont on vient d'entendre le nom, Arlette Lebigre, appartenaient à ce que vous appelez la cabale des importants, c'est-à-dire ce qu'on appelait la fronde des princes. Pourquoi ces princes voulaient-ils tant à Mazarin, qui était vraiment leur bête noire?
Oui,
Parce
qu'il est italien, et les étrangers sont très mal vus, surtout à la tête du pouvoir.
Je rappelle qu'en plus, la régente elle-même est d'origine espagnole. Anne d'Autriche, malgré son nom, elle est espagnole d'origine.
Exactement. Ouais. Alors donc, un étranger, et en plus cardinal. Car beaucoup de ces gens-là, et si c'est pas eux, ce sont leurs parents, ont déjà gardé un très mauvais souvenir d'un précédent cardinal, Richelieu. Oui. Alors deux cardinaux de suite, et le deuxième, étranger, par-dessus le marché, ça commence à faire beaucoup.
Alors, ce
que ces gens-là reprochent, essentiellement à Mazarin, c'est d'usurper la place que, d'après eux, il devrait occuper de plein droit, c'est-à-dire d'être les conseillers du roi.
Or, eux sont mis totalement
sur la touche.
Ça, c'est les motivations des princes et de Madame de Longueville. En revanche, cette fronde allait commencer par être une fronde populaire, venue de Paris, du Parlement de Paris. Bon, c'était pas l'Assemblée nationale, mais c'était quand même les magistrats parisiens qui se dressent, eux, contre autre chose, qui en veulent à Mazarin à cause des impôts qu'il impose à la France, à cause de la guerre qui est en train de se poursuivre.
Exactement, parce que à ce moment-là, le trésor public est dans un état absolument lamentable, et Mazarin a un véritable génie pour tondre les moutons que sont les Français à l'époque, aidé de son complice qu'il a nommé à la tête des finances, un autre Italien, Particelli d'Emery. On invente à peu près chaque semaine, disent les contemporains, une taxe nouvelle. Et alors, en plus, tout de même, il faut bien dire que le Parlement de Paris, bien que composé de magistrats de l'ordre judiciaire, puisque c'est ce que ça signifie à l'époque, estime avoir des droits sur la législation royale.
Oui, il profite en fait de la faiblesse de la monarchie, du fait de la régence, pour exiger d'Anne d'Autriche des réformes qui vraiment nous font penser à la Révolution, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'impôts sans aval du Parlement, vous les supprimez l'aide de cachet.
Exactement.
Alors, Anne d'Autriche accepte dans un premier temps, en revanche, elle fait arrêter un des parlementaires, Broussel, on l'a entendu tout à l'heure, ça déclenche la fronde à ce moment-là. Et la fronde du Parlement, à laquelle vont se joindre les princes, et la duchesse de Longueville, qui, elle, tout de suite, s'engage du côté de cette fronde et de cette révolte parisienne. Pourquoi ?
Oui, elle s'engage, et tout à l'heure, quand on a présenté une pièce de Corneille à Mazarin, eh bien, il est certain que c'était ce qu'on pouvait faire de mieux pour le film en question, car elle a été littéralement bercée, la duchesse de Longueville, par les tragédies de Corneille. Et il y a en elle, effectivement, quelque chose d'une héroïne de Corneille. Mmh. Et ce qui importe pour elle, c'est ce qu'on appelle à l'époque un terme à peu près intraduisible. À la nôtre, sa gloire. C'est-à-dire avoir le mérite d'être celui ou celle qui va mener un combat, fût-il désespéré, mais contre ce que l'on estime impossible à supporter. Mazarin est le tyran à abattre.
Oui, enfin c'est ce qu'elle dit en tout cas.
C'est ce qu'elle dit, bien sûr.
En tout cas, elle entraîne avec elle tous les grands noms du royaume dans cette fronde des princes. Mazarin et Anne d'Autriche se retrouvent pratiquement seuls. Ils s'enfuient de Paris avec Louis XIV en janvier 1649 pour se réfugier à Saint-Germain. Et au fond, le sort de Mazarin, d'Anne d'Autriche, du jeune Louis XIV, dépend d'un homme. C'est le propre frère de la duchesse de Longueville. C'est le grand Condé, le vainqueur de Rocroi. Hein. Et alors que sa sœur, qui est enceinte, va à Paris auprès des insurgés, eh bien, Condé, lui, refuse ce qu'on lui propose Gondi, c'est-à-dire d'entrer dans la fronde.
Monseigneur, il s'est formé un parti à côté de la fronde du Parlement que l'on appelle la fronde des grands.
Je ne serai pas maître de cette fronde-là, parce qu'elle ne peut se faire contre le roi Gondi. Je suis prince du sang. Partie intégrante de la royauté. Grand maître de France, général en chef. Je m'appelle Louis de Bourbon-Condé.
Et votre frère et votre sœur...
Madame de Longueville dit elle-même qu'elle n'aime pas les jeux innocents. Ma sœur fait ce qu'elle veut.
Mesdames et messieurs, saluez la duchesse de Longueville.
Vive ! Vive ! Vive !
Musique.
Pour consacrer l'union de la noblesse et du Parlement de Paris, la sœur du grand Condé a voulu accoucher à l'hôtel de ville et prénommer son fils Paris.
Vive Paris !
Paris, je t'offre mon charme Paris de Longueville.
Que Dieu le bénisse !
Que Dieu bénisse cet enfant de la fronde et que Dieu bénisse Paris qui a dressé des barricades contre Mazarin.
Souriez. Messieurs, mort à Mazarini !
Qu'est-ce la fronde ?
Longueville, des villages, Tocsin, il faut donner, tromper tous les passages qu'il voulait emmener. Pour sonner le Tocsin, pour savoir Mazarin. Seuls les champs pleins d'ouvrages, à ruiner tant d'héros, en débouchant de villages, vous donnant des impôts. Pour sonner le Tocsin,
vous écoutez France Inter 2000 ans d'histoire aujourd'hui, la duchesse de Longueville, qu'on appelait l'âme de la fronde, qui a divisé sa famille, on l'a entendu, Arlette Lebigre, parce que il y a quelque chose de cornélien là-dedans, tandis que elle devient, comme vous dites, la reine de Paris, son fils, elle présente son fils aux Parisiens et lui donne comme prénom Paris, Charles Paris, hein, pour être
précis. Ah, c'est pas elle qui lui a donné le prénom.
C'est la municipalité de Paris.
Absolument, il devait être baptisé sous le nom de Charles, et le prévôt des marchands, c'est-à-dire le maire de Paris à l'époque, a demandé que, en hommage au service qu'elle rendait à la ville, ce bébé soit appelé en second prénom Paris.
C'est extraordinaire, ça.
Mais c'est très beau. Il est né à l'hôtel de ville, d'ailleurs.
Mais allez, c'est l'idole, là. C'est vraiment la reine de la France.
Et en plus, elle se prénomme Geneviève. Ouais. Et alors, immédiatement, dans le peuple, et mais voilà. Bien sûr, ouais. Sainte-Geneviève a sauvé Paris des hordes d'Attila, et Anne-Geneviève va sauver Paris de l'affreux tyran Mazarin.
Et alors, de son frère, parce que elle est à l'intérieur de Paris, elle est avec les frondeurs, et son frère est à l'extérieur, en train d'assiéger Paris, et même d'affamer Paris. C'est ça qui va mettre un terme à cette première fronde, Arlette Lebigre.
Ben oui, il fallait bien trouver une solution, il fallait arriver à en sortir, parce que Paris était effectivement réduit à la famine, la régente Mazarin et le petit roi étaient à Saint-Germain, ils ne pouvaient pas y rester indéfiniment, il fallait trouver une espèce de modus vivendi. Alors on a bâclé une paix, je dis bien la paix de Rueil, chacun des deux parties d'ailleurs, sachant parfaitement que cette paix serait provisoire, et qu'un jour ou l'autre, ça recommencerait. Mais dans quelles conditions ? Et c'est là que Anne-Geneviève espère que la prochaine fois, elle sera arrivée à mettre de son côté son frère aîné, le grand Condé. Mmh.
Alors, effectivement, cette paix est totalement bancale, ça dure à peine un an, jusqu'au jour où Mazarin, qui arrête le mari, monsieur de Longueville, le mari d'Anne-Geneviève de Longueville, arrête ses deux frères, hein, Conti et Condé, parce que Condé, qui était devenu très important, puisqu'il avait sauvé la monarchie de la fronde, commençait à être gourmand. Oh, Mazarin le fait enfermer. Oui. Et donc, la duchesse de Longueville, elle s'enfuit, elle a peur d'être arrêtée aussi, et elle parcourt la campagne, toute la Normandie, pour essayer de soulever les Normands à nouveau contre Mazarin.
Et oui, et pourquoi la Normandie ? Bien parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, son mari est gouverneur de Normandie. Il le sera d'ailleurs au total pendant 40 ans. Et il est extrêmement populaire en Normandie. Car cet homme assez falot, tant sur le plan personnel que dans ses tentatives politiques, s'est révélé sur place un excellent gouverneur, où toutes ses qualités humaines lui ont acquis le cœur des populations. C'est pourquoi la duchesse part en pleine nuit, alors ça c'est une équipée extraordinaire, avec une soixantaine de gentilshommes qui s'empressent autour d'elle, son amant La Rochefoucauld, et tout ce monde va chevaucher pendant une nuit de tempête épouvantable pour gagner la Normandie et soulever la province, pour libérer son bon gouverneur, le duc de Normandie, et bien sûr les deux princes Alsace, Condé et Conti.
Sauf que c'est un échec, elle n'arrive pas, parce que toutes les villes restent fidèles au roi.
C'est un échec total, et elle-même, elle y risque sa vie, puisque d'abord elle manque de se noyer dans une petite rivière près de Dieppe, d'où elle s'enfuyait après le refus de la ville de s'engager à ses côtés. Elle risque d'être traquée par les sbires de Mazarin qui la poursuivent de manoir en manoir où elle s'est réfugiée, où des gentilshommes fidèles la cachent. Bon, c'est une équipée absolument incroyable. Là, on n'est plus chez Corneille, on est chez Alexandre Dumas.
Et puis alors, elle va ensuite se cacher à Stenay, qui est dans la Meuse, je crois.
Oui.
Elle signe un accord avec les Espagnols, elle va chercher le secours des Espagnols pour se soulever. Là, elle trahit quand même.
Oui, d'autant que l'Espagne, à l'époque, est notre ennemi héréditaire.
Oui.
Ce n'est pas l'Angleterre, on en parlera beaucoup plus tard, de l'Angleterre comme ennemi héréditaire, ou plus tard la Prusse. Non, c'est l'Espagne. Et le plus extraordinaire, moi ce qui m'a le plus frappé, c'est que le roi d'Espagne accepte de traiter de puissance souveraine à puissance souveraine
avec la duchesse
avec
de Longueville.
Cette femme qui n'est pas reine, qui n'est pas régente, qui ne représente qu'elle-même.
Ouais.
C'est tout de même la preuve qu'elle est prise très au sérieux et qu'on la sait capable de très grandes réalisations. D'ailleurs, Mazarin disait, elle et Madame de Chevreuse sont capables de renverser 10 États.
Ah oui. Alors cela dit, finalement cette menace fait que l'affaire se calme, Mazarin lui-même décide de ça c'est compliqué hein, la fronde, faut bien reconnaître, parce qu'il y a des trahisons, on se met du côté du pouvoir, tantôt pour, tantôt contre, etc. Et alors l'affaire se calme, surtout lorsqu'en 1651, le jeune Louis XIV atteint sa majorité, on pourrait se dire, la fronde c'est fini, eh bien pas du tout. La duchesse de Longueville reprend le combat contre Mazarin et essaye cette fois-ci d'entraîner son frère donc dans les derniers combats de la fronde.
Ne songez-vous donc à rien quand vous étiez en prison ? Monsieur le prince, mon frère, éloigné à jamais de toute vraie puissance et de ce qui pourrait aller, qui sait, presque jusqu'au trône.
Anne, vous êtes folle.
Ou c'est la paix qui me ramène en Normandie avec mon mari en tranquille épouse ? Ou c'est la guerre ?
Si vous voulez la guerre, il faut la faire. Lorsque j'aurai tiré l'épée, ce ne sera pas pour crever des oreillers. Nous n'avons pas assez d'argent, pas assez de troupes.
Nous avons des univers d'héroïsme.
Ça n'a jamais suffi, croyez-le.
Nous pouvons soulever la Guyenne, le Poitou, le Berry.
Et les Espagnols. Parce qu'il va falloir s'allier aux Espagnols, je pense que vous y avez songé. Que décidez-vous ?
La guerre.
Alors je vais donc souhaiter la victoire de l'Espagne.
Et voilà comment Condé, qui est frère de la duchesse de Longueville, qui avait sauvé la monarchie de la première fronde, se met cette fois-ci, se dresse en armes contre Mazarin, contre Anne d'Autriche. Il va aller à Paris, où il va se défendre enfin pendant un an, tandis que elle va résister pendant encore 2 ans à Bordeaux. Elle soulève Bordeaux et tient Bordeaux contre Mazarin pendant 2 ans.
Alors pourquoi Bordeaux, évidemment, on peut se le demander. Il y a 2 raisons très simples. C'est que Condé est gouverneur de la province de Guyenne. Il a donc beaucoup d'attaches sur place, beaucoup de clientèle politique, beaucoup de fidélité, et qu'ensuite, Bordeaux est près d'Espagne, et qu'on attend effectivement des renforts militaires venus par voie de mer.
C'est une trahison,
de l'Espagne.
Quand même.
Ah, mais totalement.
Oui.
Mais d'ailleurs, elle est déclarée, elle, et ceux qu'elle a entraînés avec elle, criminelle de lèse-majesté. Mmh. C'est de l'intelligence avec l'ennemi, on dirait maintenant. Mais à l'époque, on n'a pas la même conception que nous à notre époque.
Oui.
Il y a ce fameux devoir de révolte des grands qui passe au-dessus de la trahison.
On n'en est pas encore à justement à Louis XIV qui après la fronde va établir une monarchie absolue et puis bien après bien sûr le sentiment national. Mais alors bon, Bordeaux elle va y tenir. Au fond c'est la dernière de la fronde, le dernier sursaut de la fronde, ce sera à Bordeaux puisqu'elle va elle ne va se rendre parce qu'elle est chassée par les Bordelais, mais elle ne se rend qu'en août 1653, c'est-à-dire 4 ans, plus de 4 ans après le début de la fronde. Et alors là la fin de sa vie, il lui reste 26 ans à vivre, est assez pathétique. Arlette Le Bigre, hein. Elle se tourne d'abord vers la foi religieuse au point d'ailleurs, de se lancer dans une nouvelle fronde, puisqu'elle va défendre les jansénistes contre Louis XIV. Mais elle devient, elle qui avait quand même mené une vie de patachon, hein, elle devient religieuse, elle se convertit en quelque sorte.
Oui, elle a eu beaucoup de mal, hein, entre nous. Et c'est pas du tout un miracle du jour au lendemain qui l'a précipitée dans les bras de la religion. Mais après cette série de défaites, elle sait très bien que maintenant tout est fini. Elle est obligée de le reconnaître. Et elle est en pleine dépression. Alors, à cette époque-là, une dépression, ça se soigne comment ? Eh bien, ça ne se soigne pas. ou bien on se jette dans la Seine où la première est bienvenue, ou bien on se jette dans les bras de l'Église. Il n'y avait pas d'autre alternative. Et elle va essayer de demander sa guérison psychologique, si je peux dire, à l'Église. Elle se tourne donc pour retrouver la foi de son enfance, qui avait été très vive. À 15 ans, elle aurait voulu être carmélite. Et c'était ses parents qui s'y étaient opposés. Et donc, elle va essayer de renouer avec la foi de son enfance. Et comme par hasard, elle ne se contente pas de peu. Elle va être entraînée, se laisser très volontairement entraînée vers ce que la religion peut avoir de plus extrême, de plus exigeant, de plus austère à l'époque, le jansénisme.
Et de plus hostile à l'autorité du roi.
Et de plus hostile, mais bien sûr.
Louis XIV qui va effectivement lutter, et elle va défendre les jansénistes. Alors il y a aussi là-dessus ce greffe des drames familiaux. Son fils, le fameux Charles Paris, hein, celui qui avait été baptisé sous la fronde Paris, est tué
à 23 ans.
Dans la guerre. Son autre fils, Jean-Louis, devient fou.
Qui est un malade mental.
Tragique.
Et absolument, et qui finira sa vie enfermé, d'ailleurs de façon princière, je dois dire, mais dans un monastère normand. Elle a eu aussi deux petites filles qui sont mortes enfants. Sa vie de femme est une véritable tragédie.
Et elle meurt en 1679, le 15 avril, dans les bras de son frère Condé, qui était là. C'est assez pathétique, c'est en même temps une très très belle aventure, celle de la duchesse de Longueville, Anne de Beaulieu.
Ah, c'est une femme extrêmement attachante, très complexe, bien sûr critiquable, sur bien des points, mais c'est facile, X siècle plus tard, de porter un regard critique. Mais son côté attachant et son côté, tout ce panache qu'elle a, moi j'ai trouvé ça absolument admirable.
Eh bien, on la retrouve justement dans votre biographie de la duchesse de Longueville, Arlette Lebigre, un livre qui a été publié chez Perrin. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Louis-Enfant-Roi de Roger Planchon et Mazarin, une fiction de Pierre Cardinal. Vous pouvez retrouver ces références en contactant le service des relations auditeurs, en composant le 3230, puis en tapant la touche 1, 34 centimes la minute, ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. Je rappelle aussi que notre émission est rediffusée la nuit, entre 3h et 3h30 du matin. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Patrick Henry et Gaëtan Colli, documentation Virginie Bloch-Lenné, Claire Tesser et Cédric Joseph Julien, une réalisation de Anne Comilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire avec Michel Vinocq, les Juifs en France depuis 1945, mais tout de suite à 14h30.